autour de la question.
D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour développer une autre approche sensible du monde qui nous entoure, des lieux et des milieux au niveau local comme au niveau global, histoire d'éclairer notre passé, notre présent et notre avenir à la lumière de la géographie. Discipline mal aimée, délaissée depuis que notre monde est entièrement balisé, cartographié, exploré, à l'heure où nous sommes tous géolocalisables et mondialisés. À quoi sert la géographie ? C'est autour de cette question qui prouve déjà que les géographes ont de l'humour, puisqu'ils l'ont choisi comme titre du colloque célébrant le bicentenaire de leur société savante, que nous allons nous interroger avec nos invités. Le géographe Jean-Robert Pitt, président de la Société de géographie, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste de géographie culturelle et auteur de nombreux ouvrages, et la géographe et écrivaine Sylvie Brunel, ancienne présidente d'Action contre la faim, professeure à l'Université Paris-Sorbonne, en charge du master consacré aux pays du Sud face au développement durable. Carte en main donc pour penser le monde en compagnie de géographes qui font appel à tous nos sens et pas seulement celui de l'orientation, même si la géographie ça se pratique d'abord avec les pieds. Autour de la question que peut la géographie au XXIe siècle, bienvenue. Bonjour Jean-Robert Pitt.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Bonjour Sylvie Brunel.
Bonjour et bonjour à tous.
Merci d'être en ligne, en direct avec nous. Je suis ravie de vous recevoir tous les deux en cette année donc du bicentenaire de la très honorable Société de géographie. Vous aviez d'ailleurs choisi comme titre de ce colloque anniversaire, repoussé en 2022 à cause de la pandémie de Covid, vous aviez choisi comme titre « À quoi sert la géographie ?» Alors, ce n'est pas seulement une boutade pour les géographes et géohistoriens, géopolitiques, géoculturels que vous êtes. Jean-Robert Pitt, je rappelle que vous êtes président donc, de la Société de géographie, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur d'ouvrages aussi divers, on ne peut pas tous les citer, hein, que « Le génie des lieux » ou « L'Atlas gastronomique » de la France, mais aussi tout récemment d'un roman géo-historique sur le premier préfet des Gaules, Dardanus, et d'un essai sur la planète catholique, une géographie culturelle. Jean-Robert Pitt, 200 ans après la fondation de la Société de géographie, à l'heure où il ne s'agit plus finalement d'explorer ni de cartographier le monde, il est vraiment temps de se reposer la question « À quoi sert la géographie ?»
Oh, elle sert à beaucoup de choses. Je pense qu'on ne peut pas habiter la planète, on ne peut pas se comporter de manière responsable dans son environnement et avec ses contemporains sans un minimum de culture géographique. Et on voit bien dans le passé où la géographie a eu le vent en poupe, mais en fait, très peu de gens avaient des connaissances géographiques. Je pense au 19e siècle, hein, le premier siècle de l'histoire de notre société de géographie. Donc, il y avait des savants extraordinaires, des gens comme Humboldt, qui a été notre président, ou comme Chateaubriand, qui avait voyagé en Amérique. Mais en fait, le commun des mortels ignorait tout de la géographie, ne pouvait pas dire un mot sur l'Asie, sur l'Afrique, sur l'Amérique. Aujourd'hui, beaucoup de gens croient connaître la géographie. En fait, ont des connaissances assez superficielles, qui viennent en partie des médias, mais je pense que si on utilise intelligemment les médias, on peut se cultiver très profondément en géographie. Mais on peut avoir un vernis de connaissances et en même temps être très ignorant du fond. Or, aujourd'hui, la géographie apporte des réponses à beaucoup de questions qui se posent à la surface de la Terre, aussi bien les questions d'environnement que les questions géopolitiques, des questions sociales, des questions économiques. On a besoin de culture géographique aujourd'hui, et en particulier si on a des responsabilités.
C'est clair, on va s'en rendre compte quand on tire le fil géographique, surtout que vous militez tous les deux, si j'ose dire, pour une géographie des sens et du sensible, une géographie qui se sert de tous nos sens et qui se pratique donc avec les pieds. Je crois que c'est ce que vous aimez bien dire, Sylvie Brunel. Alors votre parcours à vous, il est aussi divers et lumineux que votre discipline géographique. Vous êtes, Sylvie Brunel, spécialiste des questions de développement, après avoir travaillé à Médecins sans frontières et Action contre la faim. Aujourd'hui, une des géographes françaises les plus originales, professeure à Sorbonne Université, en charge donc du master consacré aux pays du Sud face au développement durable. Vous êtes aussi, Sylvie Brunel, écrivaine et cavalière émérite, auteur d'une géographie amoureuse du monde et d'une géographie amoureuse du maïs. mais aussi de croquer la pomme, l'histoire du fruit qui a perdu le monde et qui le sauvera, ou encore de l'Afrique est-elle bien partie, point d'interrogation. Rappelons que votre dernier opus, Pourquoi les paysans vont sauver le monde, vient de paraître en poche. Un éclectisme assez formidable qui démontre que la géographie, c'est une formidable grille de lecture du monde et qu'en tirant n'importe quel fil géographique, on peut non seulement nous raconter des histoires, mais regarder autrement le monde. Sylvie Brunel.
Mais tout à fait, Caroline. Vous savez, pour moi, la géographie, ça a été une révélation. Moi, j'étais juriste, j'étais dans une école de commerce, et puis j'ai découvert la géographie parce que mon compagnon voulait présenter l'option géographie à l'ENA. À ce moment-là, je me suis emparée de livres de géographie et je me suis dit que c'était la seule discipline qui permettait de comprendre et d'aimer le monde dans sa globalité. C'est-à-dire que la géographie, elle sollicite à la fois le temps, l'espace, la comparaison, les échelles, les jeux d'acteurs. C'est la science des possibilités. C'est la science qui nous dit que rien n'est jamais perdu, qu'il faut être optimiste face à l'avenir, que le milieu physique peut exercer des contraintes, mais qu'on peut aussi le transformer et en tirer le meilleur. C'est la science de l'intérêt général.
C'est la science de la curiosité. J'ai lu aussi, je trouve ça magnifique, parce que s'il y a bien le plus beau des défauts qu'on puisse avoir, c'est bien la curiosité. Dans le colloque que vous préparez donc pour le bicentenaire de la Société de géographie, vous parlez de la géographie comme une boussole pour l'avenir, Jean-Robert Pitt.
Oui, je pense que l'ignorance géographique, c'est ce que nous avions utilisé comme slogan au Festival international de géographie de Saint-Dié, mm-hmm, il y a des années. L'ignorance géographique est une arme de destruction massive. Et on s'aperçoit bien que beaucoup de conflits qui arrivent dans le monde, des conflits ethniques, des conflits religieux, des conflits économiques ou politiques, reposent sur l'ignorance géographique. La géographie, ça permet de comprendre l'ailleurs, autrui, aussi, et à partir du moment où on connaît et où on comprend, on peut arriver à trouver un modus vivendi. Mais quand on ne sait pas, on peut tomber dans les excès les plus graves. On le voit bien avec les conflits religieux. Il y en a un en ce moment au Proche-Orient qui éclate de nouveau et qui repose largement sur de l'ignorance de ce que sont les religions, l'histoire des religions, qui, à la limite, qui, en dehors des questions de foi, permettent, quand on connaît l'histoire, de se supporter. Regardez l'effroyable génocide du Rwanda. Si les Hutus et les Tutsis avaient su qu'ils avaient le même patrimoine génétique, simplement que les uns, pendant des siècles et des siècles, ont mangé de la viande et du lait, étaient grands, alors que les autres ont mangé du miel, étaient petits, mais que le reste, rien ne les différencie, ils auraient su ça. Je pense que ça aurait relativisé considérablement les choses. Donc, beaucoup de conflits aussi, je pense entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, reposent sur l'ignorance absolue en Corée du Nord de la géographie du monde.
Et en plus, ignorance absolue, ou alors une connaissance de la géographie à partir juste de notre petit point de vue. Or, effectivement, ce sont aussi les géohistoriens qui ont apporté...
Voilà, c'est pas ça. De la géographie, c'est justement.
La géographie, elle doit pouvoir se lire de tous les côtés du monde et pas à partir d'un
centre... Il faut sortir de sa chambre, comme vous l'avez dit et comme le dit Sylvie, avec ses pieds, avec ses yeux, avec ses cinq sens. Il faut boire le monde, il faut être une éponge vis-à-vis du monde et puis ensuite se poser des questions, essayer de comprendre avant de juger et de projeter des idées reçues sur le monde. On le voit bien en matière d'environnement et je crois qu'on partage assez ce point de vue avec Sylvie. Le catastrophisme actuel, la collapsologie qui nous environne est dramatique, alors qu'on a tous les moyens techniques pour vivre bien et mieux à la surface de la Terre.
Sylvie Brunel, un mot justement sur cette boussole pour l'avenir qu'est la géographie.
Vous savez, en géographie, il y a une formule que j'aime beaucoup qui dit « les ressources ne sont pas, elles deviennent ». C'est-à-dire que finalement, un milieu, il n'est jamais ni surpeuplé, ni trop pauvre, ni trop dégradé. On a toujours, ce que la géographie nous apprend, c'est qu'on a toujours les moyens d'embellir, d'améliorer la Terre, de vivre en paix sur la même planète, de trouver des solutions ensemble. Et c'est ça qui est formidable dans cette discipline, parce qu'elle convoque aussi bien le milieu physique que la culture, que les héritages. Tous les paysages sont des héritages. Elle nous apprend à relativiser aussi les diagnostics les plus pessimistes. Il n'y a pas d'optimum. Hier, c'était différent. Les paysages étaient différents. Demain, ils seront différents. Et on apprend finalement à lire les milieux, à lire l'espace. Et Jean-Robert Pitt a raison. Cela nous rend beaucoup plus tolérant, beaucoup plus positif. Voilà, c'est une discipline formidable.
Autour de la question, à quoi sert la géographie? Vous avez commencé d'y répondre, et pourtant, cette discipline aujourd'hui est mal aimée, elle est délaissée. Alors, c'est parce qu'en France, en tout cas, elle est rarement enseignée seule. Hein. Elle est enseignée, on dit, l'histoire géo et jamais la géographie toute seule. C'est tout le sens de la question soulevée par ma consoeur, Cécile Lestienne, directrice de la rédaction du mensuel Cerveau et Psycho.
J'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à l'éducation nationale, on enseigne l'histoire-géographie et que l'histoire est beaucoup mieux perçue que la géographie, que l'histoire c'est amusant et la géographie c'est barbant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et que pourrait-on faire pour changer les choses ?
Jean-Robert Pitt.
Ah ben c'est une bonne question. Il est vrai que la géographie, lorsqu'elle étudie le présent, on peut faire de la géographie historique, mais bon, la géographie qui s'intéresse au présent donne l'impression, au commun des mortels, qu'il n'y a pas de mystère. Or, il y a énormément de questions qui se posent et de recherches à faire pour comprendre le monde. Tandis que l'histoire étudie des faits qui sont définitivement révolus, qui appartiennent au passé. Et par conséquent, ça fait toujours rêver. Parce qu'on ne peut pas, comme on n'a pas de machine à remonter le temps,
on peut pas changer le cours des choses.
Il faut un immense talent pour l'historien pour faire revivre des périodes anciennes. Même lorsque c'est de l'histoire contemporaine d'il y a 50 ans ou un siècle. Tandis que la géographie, on a l'impression que ça va de soi, puisqu'on a les photos, on ouvre sa télévision, on a des vues de New York, on a des vues de Tokyo. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de mystère. Or, il y a encore beaucoup, beaucoup de mystères et beaucoup de questions à se poser, beaucoup de recherches à faire autour de la géographie. En tout cas, beaucoup de recherches qui servent à mieux vivre et à faire la paix. Un de nos collègues qui est âgé maintenant, Yves Lacoste, avait écrit
très longtemps «
La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Ce qu'il voulait dire par ce « d'abord », c'est que les militaires ont joué un grand rôle dans les progrès de la géographie et de la cartographie parce qu'ils en avaient besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, la géographie sert à faire la guerre, elle sert surtout à faire la paix.
La géographie sert aujourd'hui surtout à faire la paix. Il faudrait donc, probablement, dans l'enseignement, séparer, enfin, distinguer les deux disciplines qui sont différentes, l'histoire.
Il y a eu une agrégation d'histoire-géographie jusqu'en 1942 ou 43, et en fait, on le sait maintenant par Mallory, un témoignage de Mallory, ce sont les historiens, ce ne sont pas les géographes, ce sont les historiens qui ont exigé la séparation. Et on a considéré que c'était une victoire pour la géographie parce qu'il y avait eu enfin une agrégation de géographie. C'est absurde, complètement. Je pense qu'on a beaucoup perdu, d'abord parce qu'il y a moins de postes à l'agrégation de géographie qu'à l'agrégation d'histoire, et que la plupart des collègues qui enseignent comme ils le peuvent la géographie dans le secondaire sont en fait des historiens. Et il faut le dire, et je le dis sans animosité vis-à-vis d'eux, parce que le métier est très très dur, la géographie les ennuie. Et par conséquent, ils ennuient leurs élèves. Voilà,
Comment faire des bons géographes? C'est là-dessus que je vais vous interroger, Sylvie Brunel, parce qu'un de nos auditeurs au Tchad, Mahamat Abradaman, nous envoie une jolie question. Il dit que lui, il est même géographe de formation, titulaire d'un bac plus 4 en géographie de l'environnement. Il nous rappelle, il nous dit que tout au long de ses années passées à l'université, il s'est rendu compte que la géographie s'immisçait, je cite Mahamat, dans presque tous les domaines, de la ville à la campagne, de l'espace au sous-sol. Et pour couronner le tout, dit-il, l'homme se trouve au centre. Mais la question est de savoir pourquoi les géographes ont l'air d'être sous-estimés. Question qui nous vient du Tchad et qui est la même qu'à Paris. Quelle est votre réponse, Sylvie Brunel?
Bien, les géographes d'abord sont sous-estimés parce qu'ils sont peu nombreux par rapport aux historiens. Donc finalement, ils sont une petite minorité qui a beaucoup de mal à faire comprendre ce qu'est sa discipline, qui est souvent résumé à une accumulation fastidieuse de statistiques, de chiffres, de tonnage, de longueur de fleuve. Alors ça ennuie tout le monde. Bien alors sûr. Qu'en réalité, le monde tel qu'il se déroule sous nos yeux est en perpétuelle transformation. Alors on dit parfois que l'histoire, c'est ce qui vient mettre de la pagaille dans la géographie. Mais en fait, la géographie, c'est une science qui est loin d'avoir donné tout ce qu'elle pouvait. Parce qu'en fait, on n'en finit pas aujourd'hui de réinterpréter les territoires et l'espace. Je vous donne un exemple très simple. Vous pouvez dire que la Bolivie, c'est un pays extrêmement pauvre. Et puis, quand on rentre dans l'économie digitale, on se rend compte que la Bolivie détient des réserves considérables de lithium, ce qui peut changer totalement son destin. Vous pouvez dire que les Émirats arabes unis, quand c'était un pays de pêcheurs et de perles misérables et de bédouins, c'était le pays le plus pauvre du monde, dans le désert des déserts. Et puis, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont exploité leur pétrole pour créer de l'intelligence, qui sont à la pointe du savoir. Et tout ne cesse de changer. Et c'est la géographie qui nous donne les clés pour comprendre ce monde en train de changer et pour trouver les bonnes solutions.
C'est une science du mouvement, au fond, et du changement. Et là, on est vraiment, vous le dites bien, en plein changement. Et au fond, se pose sur la table, c'est pas pour rien, vous avez cité Yves Lacoste et la géopolitique, toutes ces questions-là se posent sur la table. La question des ressources aussi, un pays est-il riche parce qu'il a des ressources ou au contraire, va-t-il se faire piller parce qu'il a des ressources? Vous avez aussi beaucoup travaillé sur ces questions-là, Sylvie Brunel.
Oui, et puis surtout la question de ressources nous interroge. Quand vous créez une filière de valorisation des déchets comme le fait la Suède, le déchet devient une ressource et on se met à importer des déchets. Quand vous considérez que la capacité de charge d'un territoire est dépassée parce qu'on considère qu'il est surpeuplé, mais on oublie simplement qu'on ne se pose pas la question du surpeuplement de Singapour ou de villes qui sont dans des endroits extrêmement étroits, mais qui on crée des ressources de l'intelligence, des ressources de la transformation, du tertiaire. Vous voyez, donc finalement, la géographie, elle remet en question tous les postulats parce qu'elle les relativise.
Jean-Robert Pitt.
Oui, je rebondis sur ce que dit Sylvie, j'adhère complètement à son propos. Mais vous savez, Jean Bodin disait « il n'est de richesse que d'homme ». Et en fait, la véritable richesse, la véritable ressource est la seule qui va permettre d'améliorer notre condition humaine sur Terre, c'est l'intelligence et c'est le savoir. Et donc, quand on voit par exemple que les pays les plus mal nourris, Sylvie connaît très très bien le sujet, sont les pays où le taux d'analphabétisme est le plus élevé. C'est là où il y a le plus d'ignorance. Et donc, l'ignorance vraiment... géographique et autres, est réellement dramatique pour le monde. Et la seule vraie richesse, c'est l'intelligence. Singapour est un exemple magnifique. Comment peut-on imaginer que ce soit devenu une puissance mondiale alors que c'est un îlot perdu sous l'équateur, qu'on a l'impression que l'équateur est au contraire mortifère, enfin que c'est un climat épouvantable. Et en fait, c'est là, il y a une concentration d'intelligence, d'innovation, d'imagination qui est extraordinaire. Donc il y a la leçon de la géographie, surtout à la française depuis Vidal de la Blache, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme physique. C'est l'intelligence humaine et la volonté humaine qui prime et l'empathie aussi. Parce que si on n'a pas envie de vivre ensemble, ça ne marche pas.
C'est ça, l'intelligence humaine, l'empathie et une approche sensible avec tous nos sens. On va y revenir parce que Jean-Robert Pitt, moi j'ai envie de dire que vous êtes aussi un géographe de la gastronomie, du vin, de la nourriture, mais pas seulement. D'hier à aujourd'hui autour de la
essentiellement
question...
quand même.
Essentiellement, ah ben voilà, à quoi sert la géographie? Allez, on continue de s'interroger avec tous nos sens et donc particulièrement avec notre bon goût, n'est-ce pas? À l'écoute d'Aloun Wad, African Fast Food sur RFI. Et son African Fast Food sur RFI, jolie mezzé jazz afro mondial depuis le Sénégal. La géographie, Jean-Robert Pitt, c'est aussi beaucoup une affaire de goût, de bon goût. Et les géographes, comme vous, se permettent d'étudier le vin, la gastronomie. Ça fait partie.
Mais les géographes ont vocation comme d'ailleurs les représentants de toutes les sciences humaines, à s'intéresser à tout. Nous n'avons pas de limite, les historiens aussi, les sociologues aussi. Donc, moi, il se trouve que j'ai une vocation rentrée de cuisinier, donc à un moment donné de ma carrière où je me suis dit, bon, maintenant, je vais me faire plaisir, je vais étudier en géographe ces questions d'alimentation et de boisson sous l'angle qualitatif, sous l'angle du plaisir. Et du coup, j'en suis venu aussi, parce que j'avais travaillé sur les paysages auparavant, à me dire, mais au fond, sans plaisir, qu'est-ce que nous faisons sur Terre ?
Je suis d'accord.
Il faut se faire plaisir et on a besoin de nos cinq sens. Alors, il y a le plaisir de l'intelligence, du raisonnement, etc. C'est formidable, le plaisir des intellectuels. Mais le plaisir des cinq sens, et tout le monde peut partager ces plaisirs, qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche. Donc, la gastronomie qui n'est pas du tout du luxe, enfin, ça peut être du luxe, mais ça peut être aussi le repas quotidien qui doit être une fête, même quand on est pauvre, est une forme d'expression de la géographie, parce qu'on mange des produits qui viennent de quelque part, on les mange quelque part et on les mange dans une certaine culture. Alors évidemment, avec la mondialisation, eh ben on goûte aussi. Quand on mange du sushi, on communie avec la civilisation japonaise. Quand on mange du mole poblano, on communie avec la civilisation mexicaine. Et ça, c'est être géographe dans son assiette ou dans son verre, c'est formidable.
Sylvie Brunel, alors vous, c'est peut-être moins du côté de la gastronomie, quoique votre dernier ouvrage paru en poche, Pourquoi les paysans vous sauver le monde. Vous êtes énormément intéressé, évidemment, en tant que géographe, à ces questions d'alimentation, de nourriture, d'agriculture.
Oui, alors ce qui est très curieux avec Jean-Robert, c'est qu'on est des deux côtés de l'échelle, c'est-à-dire que lui, il s'occupe de la gastronomie, du bon vin, et moi, en fait, je me suis préoccupée, non pas par plaisir, mais par devoir, des questions de famine. C'est ce qui m'a amenée à travailler d'abord à Médecins sans frontières, ensuite à Action contre la faim, à faire mes travaux de recherche, ma thèse d'économie aussi sur la question de la faim. Et je suis très marquée parce que la pandémie a augmenté le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, plus de 100 millions de personnes. Mm-hmm. Vous avez vu que le Programme alimentaire mondial, qui est la plus grande organisation de distribution d'aide alimentaire au monde, a eu le prix Nobel de la paix en novembre 2020. Mm-hmm. Nous sommes vraiment confrontés aujourd'hui à cette question du manque de ressources d'un certain nombre de personnes, non pas parce que leur milieu leur interdit de se nourrir, mais parce qu'ils n'ont ni les moyens ni la reconnaissance pour pouvoir cultiver dignement leurs terres, être rémunérés de façon décente pour leur travail. Et pourquoi je dis que les paysans vont sauver le monde ? Parce que chaque fois que l'on rend sa fierté à un paysan en le rémunérant correctement pour son travail, en lui donnant les moyens de travailler, dans de bonnes conditions, eh bien, on a toutes les solutions du développement durable. Et c'est ça qui me marque, c'est qu'il faut vraiment rendre leur fierté à ces gens qui nous nourrissent, et ne pas leur mordre la main. C'est marquant que dans le 9/10 de l'humanité, les paysans sont maltraités et souffrent de la faim. Et dans le dernier 10e de l'humanité, qui est chez nous, où nous sommes gavés, où nous sommes nantis, eh bien, nous ne cessons de les critiquer. Et c'est cela que j'ai voulu expliquer dans mon dernier livre.
Et effectivement, et vous dites que ce n'est pas une question de ressources, hein, Sylvie Brunel. Vous dites qu'il y a assez...
Non, parce que, bien sûr, regardez par exemple... Pensez à tous ceux qui nous écoutent en Afrique aujourd'hui. Le continent africain, c'est le grenier de la terre. C'est le continent qui pourrait se nourrir et nourrir l'humanité. Et en même temps, pour tout un tas de raisons, aujourd'hui, il est le premier importateur de produits alimentaires pour nourrir les villes, alors même que 70% de la population travaille toujours dans les campagnes. Et l'on voit bien que chaque fois qu'un pays se donne les moyens de reconnaître le travail de ses paysans, de leur permettre d'avoir de bonnes filières, de bonnes semences, de bons outils, d'une bonne rémunération, eh bien, il renverse son destin. Et ces personnes qui sont dans les campagnes, elles sont d'une ingéniosité absolument formidable, parce qu'il faut qu'elles fassent feu de tout bois, si je puis dire, mais c'est souvent très difficile pour elles, donc elles migrent, elles quittent les campagnes pour les villes, elles quittent les villes pour les littoraux, elles quittent les littoraux pour venir dans ce qu'elles pensent être des Eldorado. Et cette géographie de la mobilité, cette géographie de la migration, c'est aussi une géographie des faillites de développement local.
Il faut vraiment regarder les choses autrement. Grâce à vous, on peut le faire, Jean-Robert Pitt.
Oui, Sylvie a mille fois raison. Elle parle surtout de l'Afrique. Là. Enfin, l'exemple qu'elle vient de donner concerne l'Afrique. Ça peut concerner aussi l'Amérique latine. Moins l'Asie, parce que n'oublions pas quand même, moi j'ai été étudiant dans les années 60, Sylvie un peu plus tard. On tirait la sonnette d'alarme dans les cours de géographie sur la fin dramatique. Il fallait absolument qu'on arrête la croissance démographique. On était à l'époque 3 milliards. C'était autant de Josué de Castro.
Il y avait un milliard
de malnutris et de gens qui étaient qui souffraient de mort de faim. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards et demi au moins. Et bon, il y a toujours 900 millions, 1 milliard de gens qui sont mal nourris, en général dans les régions qui sont les plus mal gérées politiquement, en guerre civile, les plus ignorantes, etc. Mais regardez, la Chine et l'Inde mangent à peu près à leur faim. Genre, je ne dis pas que ces pays sont des modèles sur le plan économique, mais mangent à leur faim. Il n'y a plus de famine, véritable famine, en Inde et en Chine. C'est incroyable. Ça, c'est la révolution verte. Donc,
qui s'accompagne aussi, révolution verte, qui s'accompagne aussi d'autres soucis
Oui, environnementaux, mais je crois que vous savez, aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait plus de pollution. Il y a des pollutions différentes et qui sont catastrophiques. Mais dans quel état vivait-on il y a un siècle, dans quel état d'hygiène, y compris dans une ville comme Paris? On parle de l'accès à l'eau, mais est-ce qu'on imagine? Moi, je me souviens dans mon enfance en Normandie, surtout ne prenez pas l'eau du puits. Donc on savait pas, il fallait trouver une fontaine, donc on savait que c'était une source, mais c'était, je suis pas si vieux que ça. Donc il y a d'énormes progrès à faire encore. On est dans des situations dramatiques dans beaucoup de pays du monde, mais il y a eu d'énormes progrès réalisés aussi. Et le géographe, je vais reprendre une expression de Vidal de la Blache, qui est le fondateur de l'école française de géographie, il est possibiliste. Tout est possible avec de la volonté, du savoir, de l'amour d'autrui aussi, c'est essentiel.
L'amour d'autrui, je prends l'empathie, la volonté de vivre ensemble, la curiosité, tout est possible. Je prends tout ça autour de la question à quoi sert la géographie.
Mais de l'effort aussi.
Et de l'effort, ça ne tombe pas du ciel tout cuit. On vous croit en tant que géographe, Jean-Robert Pitt et Sylvie Brunel. Évidemment, quand on pense à la géographie, on pense d'abord aux cartes, à la cartographie, même si, on l'a compris, vous nous entraînez bien au-delà. Mais je propose un petit arrêt sur l'image d'une des plus anciennes cartes en relief découverte en Europe, gravée sur une dalle il y a plus de 4000 ans, la dalle ornée de Saint-Bélec à Bleuhan, dans le Finistère en Bretagne, date de l'âge du bronze ancien. Elle est étudiée par l'archéologue Yvan Payet, chercheur à l'INRAP et à l'Université de Bretagne occidentale, avec son post-doctorant Clément Nicolas de l'Université de Bournemouth en Grande-Bretagne. Écoutez Yvan Payet décrire cette première carte en relief, ou plus ancienne carte en relief découverte à ce jour, au micro de Charlie Dupiot.
La dalle de Bleuhan, en fait, est une grande dalle en pierre, en schiste, de 2 mètres de long à peu près sur 1 mètre 50 de large, 15-20 cm d'épaisseur. Elle a été gravée quasiment entièrement sur une de ses surfaces. Quand on est face à cette dalle gravée, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à des représentations complètement inextricables. Tout est entremêlé, il y a des lignes, il y a des courbes, il y a des ronds, il y a des ovales, et tout ça est relié par des lignes. De prime abord, comme ça, on se dit c'est quelque chose d'indéchiffrable. Quand on a le nez dessus, c'est quasiment impossible de voir se dégager quelque chose de concret. Et en prenant du recul, là, c'est peut-être la part de l'enfant qui est en moi et qui était aussi dans Clément, qui nous a fait dire qu'on avait affaire probablement à un document topographique, cartographique. Mais encore fallait-il pouvoir le démontrer. Ce qu'on a pu mettre en évidence, une fois qu'on a eu repéré certains éléments marquants du territoire qui étaient représentés sur la carte, on a pu recaler cette carte sur les fonds de carte actuels. En fait, on avait donc des nœuds sur lesquels on pouvait s'appuyer. Ces nœuds, c'était justement certains éléments marquants du paysage qu'on avait reconnus, la ligne de crête des Montagnes Noires, la vallée de l'Audet, le massif de l'Andudal, plusieurs cours d'eau tels que l'Isole, le Sterlaer. Et en s'appuyant sur ces points géoréférencés, on a pu recaler la dalle et dire en effet qu'elle couvrait un territoire qui faisait une trentaine de kilomètres sur 20 à peu près. Je pense que si on fait l'association avec justement un territoire physique existant et les représentations qu'il y a sur cette carte, on a bien affaire à un territoire de l'âge du bronze et donc un document cartographique qui a au moins 4000 ans.
Et est-ce qu'on sait à quoi cette carte a pu servir à l'époque ?
En fait, je pense qu'il faut se positionner dans le contexte géopolitique ou sociopolitique de l'armorique à l'âge du bronze ancien, donc il y a 4000 ans. On est dans des sociétés très très structurées, très très hiérarchisées, qui ont à leur tête des rois, mais qui sont à la tête de petits territoires. Notre hypothèse, c'est que ce roi a voulu graver dans le marbre, tout simplement, son territoire. Et on voit bien que cette carte, en plus, a évolué au fil du temps. Ils ont rajouté différents motifs. Alors, toujours dans le même style, hein. Quand on regarde cette composition, on a vraiment l'impression que ça a été fait d'une même main. Mais après, dans le détail, on voit bien qu'il y a des gravures qui viennent recouper d'autres, comme s'il y avait eu des petites reprises, des choses sur lesquelles ils sont revenus. Et puis évidemment, ils ont étendu, notamment vers l'est, la carte. Comme si, en effet, on avait un cœur de territoire au départ, puis ça se densifiait et ça s'élargissait. Donc on peut imaginer que cette carte-là, en fait, a servi sur plusieurs générations. Ce n'est pas juste un objet qui a été réalisé à un moment T à la demande d'un potentat. C'est qu'en fait, ensuite, elle a dû servir à toute cette lignée, en fait.
Une réaction peut-être à cette carte gravée, la plus ancienne découverte en Europe à ce jour, sur la dalle de Leandre, dans le Finistère breton, datant de plus de 4000 ans. Jean-Robert Pitt.
Alors, plus ancienne, une des plus anciennes, parce que cette carte s'inscrit dans un ensemble de représentations visiblement cartographiques à différentes échelles, qu'on trouve en particulier, je vais prendre deux exemples bien connus, qui sont la Vallée des Merveilles dans le Mercantour.
Dans le sud de la France.
Dans le sud de la France, au-dessus de Nice, qui est un ensemble de pierres gravées à 2000 mètres d'altitude, dans lesquelles on reconnaît, alors, des chasseurs, etc., toutes sortes de scènes mythologiques et religieuses, mais aussi des cadastres. Et il y a une vallée en Italie, en Italie du Nord, dans le Val Camonica, où on trouve aussi énormément de représentations visiblement spatiales. Dire que c'est une représentation d'un territoire, d'une région de 30 km de long, pourquoi pas, c'est une belle hypothèse. Et ça correspond en tout cas au fait qu'effectivement, à l'époque du bronze, les sociétés qui maîtrisent bien l'agriculture, s'organisent en territoire avec des frontières et ont envie de représenter leur territoire pour mieux le maîtriser. Donc je ne sais pas si ça servait à faire la guerre ou à faire la paix, mais en tout cas, c'est incontestablement une représentation territoriale. Et c'est autour de cette époque, on voit aussi au Sahara des représentations de ce genre, qui datent de l'époque du néolithique.
Donc les hommes et les femmes, Sylvie Brunel, ont représenté leur territoire. C'est un peu ça le début de la géographie. Ensuite, c'est l'exploration. Et puis aujourd'hui, on est bien au-delà des cartes, ou alors on fait des cartes ou des atlas de beaucoup d'autres sujets et pas seulement des représentations de nos territoires.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que quand on pense à d'autres civilisations, par exemple les aborigènes, dont les représentations datent de 50 000 ans, ou les pétroglyphes que l'on trouve à Hawaï ou en Guadeloupe, qui sont des civilisations qui ont représenté leur espace il y a des milliers d'années. Donc ça nous permet de relativiser, bien sûr, cette antériorité européenne, hein, et d'être extrêmement humble, extrêmement modeste, et puis aussi de mesurer l'ampleur de notre méconnaissance aujourd'hui, puisque vous savez, on explore l'espace, mais on ne connaît toujours pas les abysses, on ne connaît pas le centre des mers, qui représente 70% de l'espace terrestre. Nous avons encore beaucoup, beaucoup à explorer. On ne connaît pas certaines zones d'Amazonie qui n'ont toujours pas été explorées. Et d'ailleurs, on découvre, quand on fait des recherches, des exemples de biodiversité dont on n'avait pas idée. Donc, en permanence, nous sommes en train de réinterpréter, redécouvrir, questionner l'espace qui nous habite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, du coup, le sanctuariser, le mettre sous cloche, en disant « rien ne doit disparaître ». Mais ça veut dire qu'il faut être toujours très humble sur l'état de nos connaissances. Nous avons toujours à apprendre sur le monde et nous avons parfois des plantes qui nous paraissent des évidences ou des paysages qui nous paraissent naturels comme la Camargue et qui ne sont que des héritages, qui ne sont que des constructions qui sont en perpétuelle évolution. C'est ça, c'est extrêmement important. C'est de savoir que nous avons le pouvoir de saccager mais nous avons aussi le pouvoir de réparer. Et c'est ça qui est merveilleux dans la géographie, c'est cette capacité à interroger ce qu'on appelle le géosystème, à mettre tous les éléments de l'analyse d'un espace terrestre en parallèle et d'en faire une espèce de Rubik's Cube qui nous permet, suivant la façon dont on passe la focale, de changer complètement notre verdict. Il peut être extrêmement pessimiste ou extrêmement optimiste. Et Jean-Robert Pitt parlait tout à l'heure de l'écologie. Eh bien, les géographes ont de l'écologie une vision beaucoup plus positive que ces théories de l'effondrement.
Et oui, c'est ça, c'est une vision positive de l'écologie, donc du futur. C'est une vision plus positive aussi du passé. Vous dites que ça décentre, ça me fait penser qu'il y a quelques semaines, nous recevions un archéologue camerounais, Narcisse Chandeux, qui disait à quel point la géographie l'aidait dans sa recherche d'art rupestre sur le continent africain, qui est aussi le continent de l'art rupestre. On a l'impression que vraiment la géographie peut servir pour le passé, pour le présent, pour le futur. Alors ce ne sont plus des cartes aujourd'hui qui servent tellement aux géographes, mais Ici, me dit Jean-Robert Pitt, ce sont toujours des cartes, mais il y a aussi des objets. Voilà où j'avais envie de vous emmener avec un autre géohistorien que vous connaissez bien et qui nous ouvre aussi les portes de la perception. C'est Christian Grataloup, auteur entre autres de l'invention des continents et des océans, histoire de la représentation du monde. auteur du Monde dans nos tasses, histoire de mondialisation du petit déjeuner.
Il revient d'un atlas historique et géographique majeur.
Oui. Mais absolument, Christian Grataloup, géohistorien. Nous l'avions reçu, c'était en août dernier, pour son cabinet de curiosité sur tous les objets, de l'aiguille à coudre jusqu'au téléphone portable, en passant par l'or et le chocolat, qui ont façonné et tissé la toile de notre humanité. On écoute Christian Grataloup.
C'est ainsi que se tisse le monde, en faisant des liens qui s'entrecroisent et qui forment comme une toile d'araignée qui fabrique effectivement notre humanité.
Une toile d'araignée, vous faites l'analogie aussi avec la toile, notre toile aujourd'hui, le web.
Bien sûr, c'est la toile au sens le plus complexe du terme, à condition surtout de le prendre au sens de la toile d'araignée, c'est-à-dire quelque chose qui a des centres et qui a des liens, plutôt que toile qui est le terme, le textile le plus élémentaire avec de la trame et de la chaîne juste croisée. C'est beaucoup plus complexe, évidemment.
Et oui, notre monde, notre représentation du monde aussi est tissée de nombreux fils qui viennent de partout. Notre histoire monde, c'est celle depuis toujours, hein. Des échanges, des liens, forme d'interdépendance et comme vous dites, d'aller-retour aussi.
Oui, d'aller et de retour, c'est-à-dire qu'il y a des moments d'abord où il y a des oublis, des étirements dans le fil se délaie, le tissu se déchire à certains moments, c'est-à-dire que des sociétés vont s'ignorer progressivement, que des distances se créent. Ça peut être fait il y a très longtemps, il y a 12-13 000 ans lorsque les niveaux des mers sont remontés, que le détroit de Bering s'est ouvert, qu'on n'a plus pu passer à pied d'Amérique en Asie. Vous avez des éloignements. Et puis, inversement, vous avez des coutures qui se refont. On ravaude constamment cette toile et on la densifie. Par exemple, lorsque les Polynésiens ont quasiment mondialisé le Pacifique, j'insiste là-dessus parce qu'on ramène tout aux grandes découvertes européennes qui sont importantes. On a tendance à les gommer, mais oui, c'est vraiment ce qui a connecté le monde que nous connaissons aujourd'hui. Mais les Polynésiens, avant, avaient relié toutes les îles, étaient très probablement allés en Amérique et jusqu'à Madagascar. Mais en même temps, parfois, la toile se déchire. C'est-à-dire que vous avez aussi, quand il y a mondialisation, je dirais, il y a anti-mondialisation. Plus on se sent dépendant de la toile, plus on veut aussi en être indépendant. Ça porte entre autres le nom de souverainisme aujourd'hui, hein, pour aller vite. Mais c'est le fait qu'au contraire, on se constitue en unités différentes. Or, il se trouve que notre humanité, elle a une énorme unité biologique. Hein. On est vraiment, nous, les mêmes. Mais en même temps, on a cette particularité par rapport à pratiquement tous les autres êtres vivants, même ceux qui nous ressemblent un peu, de constituer des sociétés profondément différentes, entre autres avec des langues différentes. Ces sociétés sont différentes et communiquent pas forcément. Donc, on a constamment cette tension entre les deux. Ce qui fait que cette tension, c'est le fil de l'histoire humaine, et c'est pas aujourd'hui, c'est tout le temps.
Jean-Robert Pitt, j'imagine que vous voulez réagir à cet éclairage de votre collègue, le géohistorien Christian Grataloup. La mondialisation, les mondialisations, avec le regard du géographe, c'est complètement autre chose que notre focus figé d'aujourd'hui.
Oui, alors la mondialisation, Christian Grataloup en a parlé admirablement et c'est vraiment quelqu'un qui sait tricoter l'histoire et la géographie de façon très sensible et séduisante. Mais la mondialisation fait très peur à nos contemporains. Mais ils ont bien tort. Parce que, évidemment, la mondialisation, on peut en faire un mauvais usage et elle peut écraser un certain nombre de gens, en particulier les plus pauvres ou les plus ignorants. Mais elle est aussi une fantastique occasion, opportunité pour vivre mieux, pour profiter les uns des autres, pour profiter de ce que produisent à la fois en matière première, en produits finis, mais aussi en idées, ce que produisent les autres civilisations, les autres peuples, et échanger. L'échange, c'est le propre même de l'humanité. Nous ne pouvons pas vivre enfermés. Enfin, il a parlé de souverainisme. On voit bien les excès que ça provoque dans un certain nombre de cas, avec des dérives politiques et des dérives dictatoriales effroyables. Donc la mondialisation, sachons la connaître, la maîtriser, en profiter. Mais elle n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est comme l'argent. Dire que l'argent est sale, c'est une absurdité totale. On a tous envie d'avoir de l'argent,
tout
mais on peut en faire.
Tout dépend de l'usage
que l'on en fait. Je dirais pareil, ça va vous choquer peut-être, mais je dirais pareil de l'atome. La maîtrise du nucléaire, on peut en faire une bombe atomique, on peut en faire aussi une énergie propre, et ça sera de mieux en mieux, je pense, à l'avenir. Donc, plein de choses sont à double. Il y a deux possibilités.
Janus, il y a deux visages. Tout dépend voilà. Ce qu'on en fait. En tout cas, il faut s'interroger ensemble là-dessus. Pour revenir sur nos échanges mondialisés et sur le regard de la géographe Sylvie Brunel, vous êtes beaucoup intéressée au maïs ou à la pomme et à chaque fois on découvre tout de même à travers ces végétaux qui nous nourrissent l'histoire de notre humanité et ça c'est le regard de la géographe.
Oh, c'est curieux que vous me parliez de ça, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Vous savez, le maïs, c'était une petite céréale qui s'appelait la théosinte, qui était au Mexique, qui permettait de nourrir, mais très peu finalement, parce qu'elle était fragile, elle nourrissait peu, et puis elle a traversé les mers, elle est devenue ce maïs qui est la première céréale mondiale, 1200 millions de tonnes dans 150 pays à travers le monde, du Danemark à l'Afrique du Sud. Ceux qui nous écoutent en Afrique savent à quel point le maïs est devenu important sur le continent africain, maïs blanc et maïs jaune. Et puis c'est vraiment aujourd'hui la céréale de la mondialisation parce qu'elle permet de se remplacer totalement ce qu'on appelle les énergies fossiles, hein, avec le biosourcé, c'est-à-dire le végétal. Vous faites tout ce que vous pouvez faire avec du pétrole, vous pouvez faire de la chimie verte, de l'énergie, des sacs dits en plastique, enfin voilà. Et puis la pomme, c'est fabuleux parce que quand on est très pauvre, on ne mange pas de pomme, ce n'est pas l'aliment de ceux qui souffrent de la faim. Et puis la pomme, eh bien, c'est un fruit qui est, alors dans toutes les civilisations, il est très très présent, hein, bien sûr, et notamment dans la civilisation chrétienne, mais on se rend compte que la pomme, elle est venue de Chine par les routes de la soie, elle est partie des montagnes célestes, et puis elle est arrivée en Europe, et venue d'Europe, elle est allée jusqu'aux États-Unis, elle est revenue, et aujourd'hui, le premier pays producteur de pommes, c'est la Chine, parce que l'émergence des classes moyennes en Chine fait que quand vous faites partie des classes moyennes, vous voulez des aliments santé, des aliments minceurs, et finalement, venue de Chine, la pomme est revenue en Chine, et elle veut dire en chinois, on l'appelle le fruit paisible. Vous voyez, donc c'est l'image de la mondialisation pacifique, le fruit qu'on mange quand on va bien et quand on veut aller encore mieux. Vous voyez, donc c'est merveilleux l'histoire des produits alimentaires.
Jusqu'où nous entraînerez-vous, jusqu'où nous entraînera la géographie, Sylvie Brunel? Allez au moins emprunter tous les sentiers du monde, cette fois-ci en musique avec le groupe orthésien Le Trottoir d'en face. Tiens donc, sur RFI.
Plus méchant que méchant et plus bête que bête, leurs manèges sont vieux, ils tournent en graissant. Sur leurs chevaux de bois, personne ne monte. Vérole.
On s'est croisés sur une route, sur un trajet, sans aucun doute. Il faisait beau, il faisait froid. On attendait coûte que coûte ces matinées que l'on redoute en se frottant le bout des doigts. Tu m'as dit viens partons loin, là où la ronde des chemins nous laisse un peu ici et là. Tu m'as dit viens faisons au moins comme le faisaient les anciens, en souriant la tête en bas. On s'est perdu sur les allées du monde. Tu m'as parlé pour que mon âme vagabonde. Gamin déchu, je t'imaginais blonde. Mais ma conscience évolue vite à chaque seconde. Je suis parti là où les anges passent, là où les dieux s'effacent, là où la vie est un mystère originaire de mes arrières. Avec mes idées fécondes, je suis parti sur les sentiers du monde.
Sur les sentiers du monde, avec les saltimbanques du trottoir d'en face sur RFI. Autour de la question à quoi sert la géographie, ça je pense qu'on a commencé à comprendre, mais que peut la géographie pour le 21e siècle? Nous sommes en compagnie de Jean-Robert Pitt, avec qui nous célébrons cette année le bicentenaire de la Société de géographie, et avec la géographe Sylvie Brunel. La géographie est plus que jamais nécessaire au monde contemporain, mais pourquoi et comment? Qui veut démarrer et puis conclure aussi?
Jean-Robert Pitt. Je pense qu'on a dit avec Sylvie combien la géographie était nécessaire pour vivre de manière plus responsable et plus agréable dans le monde actuel. Ce que je voudrais dire d'important, c'est que je regrette qu'on n'étudie pas assez la géographie dans les écoles où on forme les décideurs d'aujourd'hui. Je pense à la France, je pense à l'ENA, on n'enseigne pas la géographie. Je pense à HEC, à l'ESSEC, je pense aux grandes écoles de commerce, on n'enseigne pas la géographie.
Ça paraît fou ce que vous dites.
Un tout petit peu, ouais. Mais je crois que c'est vraiment très très peu de choses. Et quel dommage, quelle tristesse, parce qu'on prive...
C'est pareil partout dans le monde ou c'est
oui,
un peu...
Oui, je crois qu'hélas... Ouais, alors, ouais, ouais. Les écoles où on enseigne la géographie, et ça rejoint ce que disait Lacoste, enfin dans l'apparence de son titre, la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, c'est dans les écoles militaires. On enseigne à l'école de guerre, à l'école navale, on enseigne la géographie, et ce sont des collègues qui imaginent une géographie qui va servir ensuite aux militaires, avec de la cartographie, avec des systèmes d'information géographique, mais aussi une connaissance culturelle de la géographie.
Comment mettre finalement la géographie au service de la paix? Parce que c'est ce à quoi, enfin, c'est sur ce quoi vous travaillez, Sylvie Brunel.
Je crois qu'il y a aussi un élément très important avec la géographie, c'est que c'est aussi la connaissance des risques. Vous savez, on parle beaucoup de la nature et on peut dire que la nature propose et l'homme dispose. Et avec les villes, on a construit des milieux extrêmement artificialisés, on a gagné des terres sur les littoraux, mais en même temps, on est toujours soumis au risque de la nature, le risque que le changement climatique exacerbe, que ça soit en montagne, que ça soit avec des disponibilités en eau, etc. Et la géographie, c'est une science finalement qui nous permet, avec cette mémoire des risques, de dire attention, ne construisons pas n'importe où. Ne négligeons pas les lois de la nature, mais en même temps, sachons aussi que nous ne sommes pas esclaves de la nature et que nous pouvons tout à fait prévoir, anticiper ces risques avec des politiques de développement, d'aménagement, d'urbanisme durable, de systèmes agricoles durables qui nous permettent de faire face à tous les aléas qui nous attendent et qui se multiplient parce que plus on est nombreux sur la Terre, ça ne veut pas dire qu'on épuise la terre, mais ça veut dire qu'il faut faire très attention à la façon dont nous mettons en valeur les milieux pour porter une humanité qui, demain, sera de 10 milliards de personnes.
C'est vraiment, on disait, la science de la curiosité, la science du mouvement, la science qui, d'une certaine manière, est une science de l'humilité et de la responsabilité, quand c'est une géographie incarnée.
Oui, mais l'humilité n'exclut pas l'action. Très actif et très positif et incisif, tout en étant humble. En se disant, bon, est-ce que le choix que je fais, est-ce que c'est le meilleur? Mais, comme le dit Sylvie, il faut se poser des questions sur les conséquences de ces actes et de ces aménagements. Donc, il y a du travail.
Il y a des questions, ce qui nous réjouit. Allez, cette année, on célèbre donc le bicentenaire de la Société de Géographie. Alors, il y aura pas mal d'événements. Le colloque « À quoi sert la géographie ?» est repoussé à l'an prochain, donc en avril 2022. Mais d'ici là, le 15 décembre 2021, il va y avoir une grande cérémonie dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne avec plein de gens très bien, des gens moins bien, mais des géographes aussi, assez étonnants, géopolitiques, géoculturels. Écoutez, on vous invite à revenir quand vous voulez, peut-être même avant, pour nous faire passer encore un peu de géographie.
Tout ça est sur le site de la Société de Géographie, facile à trouver sur Internet, et vous avez toutes les informations sur ce bicentenaire.
Et ben, le lien est sur notre page. Merci beaucoup, merci Sylvie Brunel d'avoir été en ligne,
Caroline,
avec nous. Alors, je rappelle, chère Sylvie Brunel, le titre de votre dernier ouvrage, édité en poche, « Pourquoi les paysans vont sauver le monde ?» chez HarperCollins, à mettre véritablement entre toutes les mains. Et puis, vous avez aussi beaucoup d'autres ouvrages. J'invite nos auditeurs à se connecter sur votre page. Jean-Robert Pitt, citons votre roman qui vient de sortir, Dardanus, le roman du préfet des Gaules, chez Kalman Lévy. Et je vous renvoie, bien sûr, chers amis auditeurs, sur tous les ouvrages passionnants de Jean-Robert Pitt et de Sylvie Brunel, et célébrons, comme il se doit, ce bicentenaire de la Société de Géographie qui nous donne envie de faire la géographie, et ça c'est bien. Merci. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à nous réécouter et à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Lachowski au micro pour vous servir, en compagnie demain, très indisciplinaire aussi et très indisciplinée également, puisque nous recevrons la professeure Pascale Cossard et l'artiste plasticien Fabrice Hibert autour de la question, comment fonctionne le monde invisible du vivant et comment le dessiner. Tout un programme à suivre, évidemment. Merci de votre fidélité, de votre interactivité. Surtout, restez curieux et gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles, en bon géographe, évidemment. À l'écoute de RFI, vous êtes bien là. Et le prochain journal, c'est dans une bonne minute.